Moi, je suis conseillère conjugale au centre de planification de l'hôpital de Romans. Et je vais dans le même sens que la personne qui vient de parler. Je trouve très difficile de faire ces entretiens. Pourtant, je vous assure qu'on y met tout notre cœur, tout notre savoir, que notre formation est quand même une formation permanente. On n'est pas conseillère conjugale comme ça du jour au lendemain. C'est une formation qu'on continue. D'ailleurs, on est là aujourd'hui dans ce cadre-là. Et je ne pense pas qu'on puisse le faire comme ça. Quand on banalise, moi, je ne crois pas qu'on banalise. Je crois que ça redevient tabou et que ça l'a toujours été. Et que la banalisation, comme vous dites, entre parenthèses, j'ai bien aimé le mot entre parenthèses, parce qu'on ne banalise jamais un entretien. Je n'ai jamais rencontré une femme dans mes entretiens, ça fait 15 ans que je pratique, qui a banalisé cet acte. Je n'en ai jamais trouvé. Mais là où je suis révoltée, c'est que je me dis que quand on travaille sur de l'humain, on n'est jamais sûr du lendemain. On n'a pas la boule de cristal. Un médecin qui travaille, il n'est pas sûr du résultat, parce qu'il travaille sur de l'humain. Même avec de grandes connaissances, un médecin sait qu'il peut achoper sur des tas de il peut dire, bon, cette personne, moi j'évalue qu'elle va en avoir pour 2 ans, pour 1 an, pour 6 mois, et 10 ans après, la personne, ou 20 ans après, ou 70 ans après, la personne est toujours là. Et Dieu merci, c'est comme ça. Et là où je suis aussi un peu en révolte, c'est que autour de l'IVG, on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entretiens, de choses comme ça, mais une personne qui accouche ou qui fait une fausse couche, elle se retrouve toute seule. Ou qui fait une IMG, elle se retrouve toute seule après. Et ça, c'est dramatique, tout autant que l'interruption volontaire de grossesse, où là, il y a peut-être un choix. Quand on fait une fausse couche, il n'y a pas toujours un choix. Mais la personne n'est pas du tout accompagnée. Elle se retrouve seule dans sa chambre avec son deuil à faire et ne sachant pas du tout comment s'y prendre. Et moi, je trouve que là, il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de démarches à faire pour que les personnes soient entendues dans toute leur souffrance, quel que soit l'acte, et pas seulement l'interruption volontaire de grossesse. Je crois qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de tabous et de, je dirais, de judéo-chrétiens là derrière, qui parfois me révoltent. Je crois que les femmes ou les hommes en souffrance ont besoin d'être accompagnés, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. C'est tout ce que je voulais dire.
C'est vrai que j'ai remarqué qu'en fait, au niveau de l'IVG, déjà, en fait, bien qu'il y ait des efforts qui soient faits. C'est vrai que les femmes, par exemple, au niveau de la RU, sont toujours surprises des effets. Soit elles n'ont pas compris, et c'est vrai qu'au moment de l'expulsion, elles se retrouvent seules. Bon, c'est vrai que nous, en tant que médecins généralistes, on va se retrouver confrontés à ces personnes, et c'est là où on peut les accompagner. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire à ce moment-là. Oui,
oui, moi, je voudrais revenir simplement comme simple témoin, parce que je m'occupe de personnes. Et que c'est parce que je suis apparemment la seule à parler de l'avoir vécu, cette IVG, à 2 reprises, à 2 périodes complètement différentes dans ma vie. Mais il me semble que depuis ce matin, je suis un petit peu interloquée en essayant de chercher, peut-être que je n'ai pas compris, hein. Le thème de la réunion, c'est quelle parole face à l'IVG ? J'ai entendu plein d'explications, mais je n'ai pas entendu quelles pouvaient être ces paroles. Enfin, je ne les vois pas, c'est parce que je suis peut-être pas du tout assez averti dans le domaine, mais il y a aussi une chose qui m'interpelle, c'est que s'il faut aider toutes ces personnes, je suis entièrement d'accord, mais il faut aussi quand même penser qu'on est totalement responsable, chaque individu, de ce qu'on va décider, même si après c'est terrible pour certaines, mais il me semble qu'il faut parler un petit peu de la responsabilité de la personne, et là, j'en ai pas entendu parler. Quand on décide une IVG, même si on se fait aider, même si c'est dur, même si on va rencontrer plein de choses, on a besoin d'être écouté. Il faut aussi, on prend ça pour soi, c'est nous-mêmes qui décidons. Et ça, personne ne peut totalement nous aider, parce que c'est chez soi qui prenons la décision. Et moi, il me semble que quand ça m'est arrivé, à l'époque où on ne pouvait pas le faire en France, j'étais à l'étranger. Je me souviens vaguement avoir eu un entretien avec un psychologue. Mais dans ma tête, je l'ai laissé dire ce qu'il a voulu me dire. Moi, je voulais cette interruption de grossesse. Et il pouvait me raconter tout ce qu'il voulait, je l'aurais fait. Même si après, ça pouvait poser des problèmes.
Mais c'est juste...
On est quand même, dans tous les cas, on est obligé d'être seul. C'est obligé, comme toutes les autres épreuves de la vie.
Oui, c'est certain, mais ce que je veux dire, c'est que probablement que dans les entretiens, c'est de permettre à la personne, bon, peut-être pas forcément juste au moment des entretiens d'IVG, mais au moins lui donner l'idée qu'elle pourrait faire d'autres entretiens, qu'elle pourra en parler, et de comprendre comment en fait une décision avant d'avoir fait un travail sur soi, on a l'impression que c'est nous qui l'apprenons, alors qu'en fait, on est héritière de tout un vécu de notre famille qui quelque part dicte nos actes. Donc c'est pour se dégager, mais c'est pas, disons que je pense que le but n'est donc d'une part donc ni de juger et ni d'enfermer la personne dans une culpabilité, et ni de lui dire c'est votre responsabilité, maintenant vous l'assumez et vous partez avec. C'est, le but il n'est pas du tout là.
Oui, je comprends bien, mais bien sûr qu'on peut être aidé, mais dans tous les cas, le psychologue ou qui que ce soit ne peut, ça peut être qu'une béquille. Jamais. Dans tous les cas, c'est soit on est obligé de se retrouver face à soi-même.
Oui. Je l'ai un peu induit ce matin. En fait, logiquement, dans un entretien pré-IVG, il y a peut-être une seule question qui devrait en fait jaillir chez la personne qui prend cette décision-là. C'est en fait de quoi a-t-elle peur quant à cette grossesse ? Mais de toute façon, un entretien IVG, pré-IVG, pardon, ne peut pas aller au-delà. Ça, c'est pas possible. Hein. Mais a priori, ça devrait quand même amener à une interrogation. Le sens ne peut jaillir qu'à ce niveau-là.
Oui, moi je voudrais juste intervenir. Bon, quelle parole face à l'IVG ? Bien sûr, c'est la parole de la personne qui vient pour faire sa demande et pour être aidée à faire un choix. Mais qu'est-ce qu'on peut offrir comme amorce d'élaboration ? Et je pense surtout aux IVG itératifs, parce que c'est déjà un objectif réussi quand on peut, quand une amorce d'élaboration a pu se faire, de façon à ce que ça ne revienne pas, et ça arrive, hein, que ça revienne à plusieurs reprises. Mais qu'est-ce qu'on peut véritablement faire quand on est, comme c'est souvent le cas, dans l'urgence ? Quelle parole est possible dans l'urgence ? Et là, je pense particulièrement aux RU, et avec le délai des 7 semaines. Bien souvent elles arrivent, elles tiennent absolument à cette méthode-là, et il nous reste en gros une semaine, hein, on va dire. Et ce qui se passe dans la réalité, c'est que la semaine entre le premier entretien et le moment où elles prennent leur décision, elle n'est pas respectée. Hein. Il faut prendre un rendez-vous, et elles veulent cette méthode-là, il y a très peu de temps. Et on est dans l'urgence, ça court-circuite tout. Ça court-circuite toute forme de... Ça court-circuite la pensée même. Et toute forme aussi d'anticipation de ce qui pourrait être une grossesse, enfin, de ce que ça pourrait être si elle gardait cette grossesse, de ce que ça sera si elle ne le garde pas. Ça court-circuite la pensée. Et cette notion d'urgence, je pense qu'on l'évoque peu dans les entretiens pré-IVG et quand elles sont là, en fait.
D'autres questions ou interventions ?
Oui, j'en viens à la généalogie. Je pense que c'est intéressant parce que dans les entretiens, quelquefois, ces femmes-là, souvent seules d'ailleurs, reparlent de leur propre histoire et même de ce qu'elles ont investi autour de la naissance, de leur propre naissance. Elles refont, alors je vous rejoins, c'est vrai, pas avec les mots de la psychanalyse forcément, mais d'un témoignage intéressant parce que quand on a le temps et quand elles ont le temps d'élaborer cela dans ces lieux-là, elles peuvent revivre leur naissance. Et en revivant leur naissance par rapport à leur mère, ce cordon qui les a reliés, je pense aussi à quand même un pédopsychiatre qui s'appelle Delassu, qui a parlé de la mémoire génétique aussi, et qui fait que l'enfant, comme ça, qu'il naît, est porteur de quelque chose, de la mémoire de sa propre mère, etc., sur le plan de la généalogie également. Mais je rejoins la personne d'ailleurs qui vient de parler pour penser que par rapport à la loi en elle-même, qui n'a évidemment jamais été bien réfléchie en profondeur, et vous avez raison de poser pierre par pierre, mais en espérant que vous arriverez à le faire jusqu'au bout, hein, je repense à cette loi où vraiment elle n'a pas le temps, parce que on lui dit d'ailleurs, ça c'est le secrétariat qui reçoit dans les centres de planification, surtout, les hôpitaux manquants de médecins qui pratiquent, qui n'ont pas mis de clause de conscience et qui pratiquent l'IVG, bien sûr, c'est l'urgence pour prendre le rendez-vous. Et quand on leur redit, bien sûr, mais vous allez pouvoir nous rejoindre dans ce lieu-là où vous avez commencé à élaborer quelque chose dans ces entretiens obligatoires, paraît-il, l'obligation pour moi ça ne veut rien dire, de post-IVG, elles échappent parce qu'elles ont déjà vécu alors un RU 486 qui vraiment se fait dans des conditions sans accompagnement où on leur dit même de regarder ce qui reste, hein, comme elles disent des petites peaux hein, que contient leur utérus, etc. Où vraiment ça c'est un scandale. Alors je rejoins, je ne sais pas si vous êtes médecin, professeur, chef de service, ben, en tous les cas de vraiment de l'incompétence de l'État et des derniers décrets qui ont été mis comme ça en place, etc., sans élaboration psychique, sans ceci, sans cela. Voilà. Donc la question, ce n'est pas une question, c'est que vous dire on en est là et j'espère que ça va évoluer. Mais enfin, on est dans l'espérance. Et je crois qu'il faut toujours être dans l'espérance, quoi qu'il en soit, parce que c'est quand même la vie. Je suis thérapeute de couple, thérapeute familiale systémicienne.
S'il n'y a plus de questions, un quart d'heure de pause et nous reprenons à moins le quart.